Daniel Racanier, bonjour.
Oui, bonjour.
Patrick Caffarel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux venus nous présenter un documentaire fiction, un film, Dans les pas de Pete. J'ai résumé le titre, on va voir le titre est un peu plus long. Daniel Racanier, vous êtes réalisatrice et présidente de l'association Les Petits Ruisseaux, vous êtes basée à Gap. Patrick Caffarel, vous êtes l'auteur, vous êtes écrivain, vous avez sorti deux livres, L'immigration des hauts alpins aux Amériques avec Michel Clément et Sur la route de Tin Slip, c'est le dernier livre que vous venez d'écrire.
Exactement.
Et ce sont des livres, ce sont des documentaires, c'est tiré d'histoires vraies, tout est vrai de ce qu'il y a dans vos livres. Et Sur la route de Tin Slip, ça a été le départ, le projet de réaliser un film. Comment on peut résumer tout d'abord en quelques mots votre livre et d'où est venue l'idée de le mettre en image?
Disons que l'idée était en moi depuis de très nombreuses années et le temps passant, il était urgent que je fasse quelque chose là-dessus. Et c'est venu, la vie est faite de hasard en fait. Et en découvrant sur Internet un certain nombre de données, ça m'a amené à aller rencontrer des Américains qui m'ont aidé finalement pour débrouiller cette histoire familiale dont j'entendais parler depuis mon tout jeune âge. Et qui était galvaudé, qui était transformé, qui était au gré des saisons, j'allais dire. Et c'était toujours le plus ancien qui avait la voix prépondérante là-dessus, alors qu'il se tromperait réellement. Donc j'ai décrypté l'histoire grâce à les minutes d'un procès qui m'ont été communiquées, 400 pages, et de ce procès qui a eu lieu là-bas au Wyoming, à la suite de ce raid sanglant qui a opposé des moutonniers, les shipmen, aux cowboys, les cattlemen, voilà, et qui a fait jurisprudence d'ailleurs en Amérique.
Alors, en globalité, on peut résumer, c'est un peu l'histoire des émigrés haut-alpins et champsorins qui sont partis vivre aux États-Unis. Alors, on connaît beaucoup l'histoire des Barcelonnettes qui sont partis au Mexique ou aux États-Unis. Cette histoire est un peu moins connue de ces champsorins qui sont partis vivre aux États-Unis. Et c'est l'histoire, donc, de votre...
Alors, c'est l'histoire de mon grand-oncle, essentiellement, mais également de mon grand-père, bon, qui apparaissent là-dedans. Mais ce n'était qu'un prétexte. En fait, le livre a pour objet de montrer un peu l'itinéraire, les parcours de ces différents Walpins qui, par milliers, sont partis là-bas vers l'Eldorado, à la recherche d'une vie meilleure, comme on dit, et d'expliquer qu'il avait un parcours depuis Gap, en passant par le Havre, et non pas Marseille, pour traverser ce qu'ils appelaient le Grand Temple, c'est-à-dire l'océan Atlantique. Ils n'avaient pas d'autre image dans leur esprit en patois que de l'appeler le Grand Temple. Et après leur pérégrination au sein du continent américain, tout en sachant qu'ils allaient majoritairement vers l'ouest américain. Voilà, donc ils exerçaient le métier de moutonnier parce que c'était un métier inné et ils étaient tout de suite opérationnels et très prisés par les Américains et au dire des Américains, avec les Basques, ils étaient les meilleurs bergers du continent nord-américain. Voilà.
Donc ils sont partis du Champsaur et petite pause du côté du port du Havre, traversée de l'Atlantique et puis arriver aux États-Unis et puis là, des histoires incroyables se passent.
Alors là, il y a des histoires incroyables. On a pu noter qu'ils sont présents dans plus de 40 États, sur 50 États américains, mais les trois quarts allaient vers l'ouest, et notamment la Californie, qui à ce moment-là était en plein développement. On se situe dans les années 1850, après le Gold Rush, et là, ils vont exceller dans l'élevage. Certains vont migrer, comme c'est le cas des protagonistes de ce livre, pour des raisons climatiques, je dirais déjà à l'époque, où la Californie est vraiment atteinte par une sécheresse extrême, et ils vont migrer vers les hauts plateaux et le Wyoming, ou d'autres régions, je dirais, proches des montagnes rocheuses.
Alors, Daniel Racanier, comment mettre en image ces histoires, cette histoire incroyable d'immigration champsorin aux États-Unis? Et est-ce que vous, du coup, vous avez tourné aux États-Unis? Est-ce que vous avez tourné dans les Hautes-Alpes?
Alors, oui, on a tourné essentiellement dans les Hautes-Alpes parce qu'on n'aurait pas eu le budget pour aller aux États-Unis, surtout en plein Covid en plus, donc ça n'aurait pas été possible. Alors, nous, ce qui a été important, c'était de permettre aux gens du terroir de s'approprier leur propre histoire et donc de faire appel à des gens du terroir même pour jouer les figurants. Et ça, c'était important pour qu'ils puissent s'approprier et être partie prenante dans le projet. Donc, ça a été notre point de départ pour recruter les personnes. Et donc, on a eu beaucoup de gens dans le terroir du Champsaur qui nous ont prêté du matériel, qui nous ont prêté leurs locaux, qui nous ont prêté des vêtements, etc. On a mobilisé à peu près 158 personnes, ce qui n'est pas rien, hors financeurs. Donc voilà, tout le monde a voulu s'est associé à notre projet pour le rendre, pour le faire aboutir. Donc ça, c'était exceptionnel, quoi.
Un film qui a été tourné donc ces deux dernières années, il est fini, il est monté le film,
oui.
Et les gens vont pouvoir le voir, il va être diffusé dans les différents cinémas des Hautes-Alpes.
Il va être projeté dans les collèges, les lycées, nous avons déjà le lycée agricole, le collège de la Bâtie-Neuve, et puis d'autres, les associations, donc ça sera dans les médiathèques, les cinémas d'art et d'essai, certainement même à Barcelonnette, puisque vous en parliez tout à l'heure. Mmh. Donc voilà, et après ça sera un peu à la demande, nous on va aller toquer aux portes pour que les gens puissent le voir, mmh. le découvrir, ça se fera sous forme de débat, de projection débat. Voilà. Alors,
l'idée c'est de proposer le film et ensuite de parler, de discuter, d'échanger, peut-être de retrouver voilà, des pièces, des documents de personnes sur des grands-parents, des arrière-grands-parents et des arrière-arrière-grands-parents
oui, voilà.
qui ont peut-être vécu des histoires identiques, c'est ça l'idée.
Oui. Oui, oui. Nous, quand on tournait, on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir en nous disant « Mais notre grand-père, ma grand-mère, mon grand-oncle, tout le monde est parti. » Et donc, il y a une volonté aujourd'hui, on dirait, Patrick parlait d'alignement de planètes, mais c'est un peu le cas. Aujourd'hui, les gens ont envie de parler de leur histoire, de cette racine et de ces racines américaines parce que il y a quand même plus de 10 000 Haut-Alpins qui sont partis aux États-Unis. Il y en a 80% d'entre eux qui s'y sont implantés, qui ont construit leur famille, qui à son tour a fondé sa famille, etc. Donc ça fait vraiment un gros potentiel de relationnel franco-américain important.
C'était fin donc des années 1800, début des années 1900, on est en oui. pleine époque un peu de ce qu'on peut appeler au niveau du cinéma un peu des westerns finalement.
Oui. Mais ce sont des westerns qu'ils ont vécu en fait, ce livre est un western en lui tout seul. Mais je veux dire, la période d'émigration elle va débuter dans les années 1830-1840, un petit peu après nos amis et voisins de Lubaï, des Barcelonnettes, comme vous l'indiquiez. Mmh. Et elle va se développer tout au fil du temps, parce qu'ici, ben, écoutez, il y a une difficulté à vivre. Les familles sont très nombreuses, la médecine a fait des progrès, la mortalité infantile va diminuer et les familles vont grossir. Il y avait 21 000 habitants en 1846 sur le Champsaur-Val-Godemar hein, pour les trois cantons, alors qu'en l'an 2000, on n'arrivait pas à 10 000 habitants.
D'accord.
Pas tout le monde est parti aux États-Unis, mais ouais. une grande partie est partie là-bas. Donc l'émigration elle-même, elle va se développer. Parce que on ne veut plus avoir besoin de passeport à partir de 1874. Et ce sont des agences d'émigration qui vont prendre le relais avec l'agrément du ministère de l'Intérieur et du préfet, donc, et vont délivrer des laissez-passer, j'allais dire, pour D'accord. franchir l'Atlantique. Donc, cette émigration, il va y avoir des retours. Les journaux vont en parler, les journaux locaux, que ce soit le Petit Champsaurin ou le Champsaur ou les Alpes républicaines, mais également des lettres qui vont revenir des États-Unis de ceux qui sont partis en pionniers, et elles sont idylliques, puisqu'on gagne en gros 5 fois plus qu'au Champsaur. C'est la raison pour laquelle ça va être en fait la revanche des cadets. Les aînés, eux, reprennent la propriété du père,
oui.
les filles n'ont pas droit au chapitre, malheureusement, et les cadets, eux, vont s'expatrier. Il y a aussi un phénomène que je veux citer, c'est le service militaire à l'époque. Il est très difficile, il est sur tirage au sort, et depuis 1872, on peut avoir un tirage favorable, on fait 6 mois, un tirage moins favorable, on fait 5 à 6 ans.
Oui,
donc ça va inciter les gens à aller voir un petit peu une bouffée d'air à l'intérieur.
Oui.
Voilà. Donc tous ces faits-là vont inciter les gens à partir. Voilà.
Alors Patrick Caffarel, avant de revenir avec Daniel sur le film en soi, encore un mot sur vos deux livres, L'émigration des Hauts-Alpins aux Amériques, ainsi que Sur la route de Tinsleep. Comment vous avez récupéré tous ces documents? Parce que j'imagine que ça a dû être un travail monstre pour retrouver des documents, des photos, des plans, des lettres.
Ça a été un travail monstre, mais là je veux absolument mettre en exergue mon collègue Michel Clément, qui lui a cherché pendant des années, je dirais une dizaine d'années, à raison de plusieurs heures par jour, tout un tas de documents. Nous nous sommes rencontrés aux archives départementales et l'idée entre nous est née de faire un livre un petit peu plus large et un petit peu plus circonstancié, basé sur des lettres. Nous avons essayé de redonner la parole à ces gens-là au travers de documents, de lettres qu'ils ont écrites. Voilà. Et puis ensuite, pour l'histoire de l'autre livre, ça a été quelque chose d'un peu plus personnel, un peu plus familial. Puisque bon, j'avais toujours dans l'idée de percer le mystère de cette énigme dont on parlait le dimanche en famille, voilà. Et donc là, il faut correspondre, il faut ne pas hésiter à écrire en anglais. Et puis on a des retours et des retours des fois très sympathiques, voilà, notamment la personne que j'oublie jamais qui m'a fourni le procès dans son dans son intégralité. Voilà.
Alors, par exemple, si j'ouvre votre livre, et c'est très drôle parce qu'on se retrouve avec des noms de famille, Champsaurin, Espitalier, et juste derrière un prénom américain, Joe. On a Joe Espitalier, par exemple, qui était propriétaire et exploitant de l'Hôtel des Alpes.
Oui.
Il avait donc fondé un hôtel.
Il avait fondé un hôtel à Los Angeles. Et disons que lorsqu'ils traversaient le continent américain, ils arrivaient tout droit vers la Californie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et essentiellement vers Los Angeles. Et à Los Angeles, il y a eu pendant 40 ans des Champsaurins, des Brochiers, des Gonsolins, des Fleurs, des Charles Fort, qui ont tenu cet hôtel et les accueillaient. Et donc là, ça va servir d'une base, et après ils vont partir soit vers les Rocky Mountains, soit vers le Mexique, la Basse Californie. Mmh. Et là, dans cet hôtel, ils avaient des journaux en français, qui étaient écrits en français, qui leur relataient les nouvelles du pays, et puis voilà, ils faisaient leur pub, comme vous voulez le lire, sur les commerces qu'ils ont montés. Bon, et puis je voudrais en profiter pour dire aussi qu'ils ne sont pas restés essentiellement dans l'élevage, mais ont basculé à un moment donné vers les professions commerciales, à savoir les blanchisseries, les hôtels, les bars, mais également les boulangeries à la française. Voilà.
Alors, dans les pas de Pete, sur les pas de Pete, un berger des Alpes au Far West, maintenant, le mettre en image, j'imagine que ça a été tout un monde, ça a été très compliqué, mais vous avez mis en place avec tous les figurants des Champsaurins, comment on a réussi à transformer le Champsaur en une vision du Far West, Daniel ?
Eh bien, on a reconstitué, on a créé des scènes, on a recréé des scènes pour permettre, avec des vêtements d'époque, avec des ambiances d'époque, ça sera plutôt des ambiances d'époque. Et puis, on a intégré pas mal d'éléments, de documents à l'intérieur, des photos d'archives, etc., de journaux d'archives aussi, pour permettre à bien resituer les choses. Voilà. Et puis, quand on veut créer des lieux différents, on est obligé de créer un peu des couleurs différentes,
bien
sinon
sûr.
On n'y arrive pas. Donc vous êtes, je crois, bien placé pour le savoir. Et donc, voilà, et y compris des ambiances sonores. Mm-hmm. Donc, puisqu'on a fait quand même appel à un cheval avec un char à banc qu'on nous a prêté, etc. Donc, on a essayé le plus possible, avec les moyens qu'on avait, de reconstituer toutes ces ambiances d'époque. Voilà.
La diffusion au grand public, c'est pour quand ?
Eh bien, ça sera dans les pas qui vont suivre. Dès le 20 mai, on va commencer à faire des diffusions. Le 20, ça sera avec le lycée agricole. Le 21, avec le comité des fêtes de Chabot.
D'accord.
Et puis, au mois de juin, ce sera avec le collège de la Bâtie-Neuve, etc. Et puis, on a aussi un projet qu'on est en train de construire avec le département, qui est aussi un de nos cofinanceurs, sur le château de Montmort, où il y aura, pour les journées du patrimoine, où il y aura une présentation du film, certainement associée avec une petite surprise. Donc, je ne vous en parle pas tout de suite.
Merci Patrick Hervé, merci Daniel Racanier d'être venu avec nous ce matin.
Merci beaucoup.